vision d'histoire.
Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais. Il me fait plaisir de vous accueillir comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir M. Sébastien Daune, professeur en études bibliques à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Bonjour M. Daune.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez coordonné, je dirais, la publication d'un ouvrage l'an dernier qui s'appelle « Questions controversées sur Jésus » aux éditions Novalis. Ma première question, vous parlez au départ dans l'introduction d'études sur l'interprétation biblique à partir de l'intertextualité. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Alors, bon, il y a toutes sortes de façons qu'on a dans mon domaine, en études bibliques, pour travailler les textes. Une des façons que moi j'emploie fréquemment, c'est l'intertextualité. Donc, c'est de mettre des textes en parallèle avec d'autres textes. Alors, des fois, quand, je sais pas, on est dans l'évangile de Matthieu, il y a tel mot qui arrive, puis c'est un contexte un peu obscur, mais ce mot-là, clé, ben peut-être qu'il reprend d'autres textes bibliques qu'on a ailleurs, notamment dans, la tradition prophétique. Puis si on comprend bien qu'est-ce qui se passe dans ces traditions prophétiques-là, ben peut-être qu'on a des chances de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu lorsque ce mot-là apparaît. Donc ça, c'est l'intertextualité canonique, on pourrait dire, donc à l'intérieur du canon biblique, mais j'aime aussi à faire de l'intertextualité un petit peu plus, où on sort de la Bible, puis on fait de l'intertextualité post-structurale, où là, on peut mettre en relation des choses aussi. J'ai fait un article sur une œuvre d'art contemporain autochtone, sur la réalité des pensionnats autochtones, faite avec toutes sortes d'artefacts, et de relire l'évangile de Matthieu, chapitre 2, où il y a les enfants qui sont massacrés par Hérode, à partir de cette œuvre-là, quand on la met à côté. Donc, c'est une intertextualité avec un texte, l'évangile de Matthieu, qui parle de la mort d'enfants, mais aussi une œuvre d'art qui a été conçue autour de souffrances et de morts d'enfants aussi contemporains, et ça amène toute une façon de toucher les émotions qui sont dans le texte, qui sont pas décrites de façon spécifique dans le texte. Donc, bref, ça peut être très large, l'intertextualité. Mais c'est de comprendre un texte en le mettant à côté d'autres textes.
Et vous avez un peu utilisé ce procédé pour cet ouvrage, donc « Questions controversées sur Jésus ». Pourquoi, là, à ce moment-ci, dans votre parcours, vous êtes intéressé à Jésus, précisément?
Alors Jésus, bon, il fascine depuis toujours et je suis pas le premier, mais moi personnellement, c'est quand j'ai fait un bac en théologie de façon plus générale, mais quand on nous appelle à nous spécialiser à la maîtrise, ce qui m'a intéressé, c'est justement Jésus. Je lisais à l'époque un texte d'un théologien allemand, Karl Rahner, qui dit on dit toutes sortes de choses, tout et n'importe quoi en théologie sur Jésus. On a fait des concepts abstraits. Retournons à la base. C'est quoi la base pour Jésus? Ben, c'est les textes qu'on a dans le Nouveau Testament à son sujet. Donc, assez rapidement dans mes études, à la maîtrise, j'ai décidé de mieux comprendre qui est Jésus, m'intéresser à la question du Jésus historique. On y reviendra. Mais donc, c'est assez tôt dans mon parcours. Au doctorat, j'ai travaillé sur l'Évangile de Matthieu, les premiers chapitres, et dans lequel on présente ce personnage Jésus qui naît et qui, dès sa naissance, il y a quelque chose de particulier qui se passe là. Donc, c'est un personnage qui m'intéresse, qui m'interpelle, au niveau académique, bon, alors je travaille sur Jésus, mais aussi au niveau de ma foi, puis au niveau existentiel, tu sais, comme personne, j'essaie de mieux le comprendre parce que ça change mon regard sur ma propre vie. Donc, c'est pour ça aussi. Et je vois que je suis pas le seul. Dans notre culture, même en dehors du monde religieux, le personnage de Jésus, on le retrouve dans des vidéoclips de rap, là, tu sais. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, puis plus on en connaît sur lui, plus il y a des questions qu'on peut creuser puis aller plus loin. Là. Alors, si j'ai commencé mes études en essayant de trouver les réponses aux questions, ben là, maintenant, j'ai vu que ça a mené à plus de questions, mais j'ai toujours de plus en plus de questions sur Jésus et sur les autres sujets qui m'intéressent.
Il y a eu une volonté avec cet ouvrage de produire un livre qui serait accessible. Mais quel est le public cible? C'est quoi l'objectif de cet ouvrage?
Je vais peut-être dire qu'est-ce qu'il n'est pas. Alors, cet ouvrage n'est pas une homélie. Quand on va à la messe, il y a un gars en avant qui parle, puis qui a une perspective de foi super importante pour nous essayer de comprendre en quoi est-ce que les textes de Jésus, les évangiles, vont nous aider dans notre vie de foi aujourd'hui comme communauté chrétienne. Ça, c'est une chose. Le livre, c'est pas ça. C'est pas un livre de spiritualité pour essayer d'approfondir ma relation à Jésus et à Dieu. Non. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, l'autre extrême, mais c'est pas non plus une thèse de doctorat sur Jésus où là, on se perd dans les notes de bas de page, où on fait juste commenter des commentateurs qui ont commenté à leur tour d'autres commentateurs. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est pas un ouvrage académique au sens strict, puis c'est pas une homélie non plus. C'est un espace qui est assez peu fréquenté, où on peut avoir de la place pour poser des vraies questions qui peuvent être un peu troublantes, déstabilisantes pour un public croyant, et en même temps qui au contraire est pas juste sec non plus, mais donne à penser, puis peut aussi réconforter certaines personnes qui disent ben coudonc, Jésus, on peut rien dire à son sujet. Non, on peut dire certaines choses. Donc c'est à la fois on a essayé de travailler pour donner un livre intelligent qui pose des bonnes questions puis qui va pas résumer les choses trop rapidement. Et en même temps, y a pas de notes de bas de page ou presque pas, puis on se perd pas dans les références, on dit directement ce qu'on pense. Mais le titre de l'ouvrage le dit bien, c'est des questions controversées, et l'accent est mis sur la question, et les auteurs avaient comme consigne de non pas de trouver la réponse à la question, mais d'aider les lecteurs à se poser cette question-là et aller plus loin avec ça. Alors les réponses souvent vont fermer un sujet, alors que les questions les ouvrent. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler est-ce que Jésus a vraiment existé ou non? Dans un homélie, on parle pas de ça. Donc il faut et pourtant les personnes se posent des questions sur ces sujets-là. Donc on a voulu ouvrir un espace pour avoir une espèce de dialogue, mais c'est sûr que le média livre est peu propice pour un dialogue, mais étant plusieurs auteurs qui ça donne plusieurs voix, ça donne des portes d'entrée aux lecteurs, lectrices, et aussi avec cette consigne d'essayer d'ouvrir les questions, puis pas nécessairement clore le sujet, mais ça aussi, ça aide à ouvrir le débat. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui sont revenues, qui nous envoient des messages, des courriels, donc il y a quand même un dialogue qui s'établit à partir de ça.
Et vous le dites bien, puisque c'est un collectif, avec oui. Des auteurs qui ont des trajectoires très variées.
Oui. Alors, on retrouve, entre autres, notre doyenne, c'est Odette Mainville, donc professeure à l'Université de Montréal, retraitée maintenant, qui est aussi autrice, qui écrit des romans, elle en a écrit plusieurs, qui s'est spécialisée sur Paul. Puis elle a un angle plutôt historique dans sa façon de travailler les textes bibliques. Donc, on lui a demandé de travailler sur la question des femmes, du rapport de Jésus aux femmes, avec, bon, Jésus était-il féministe? Bon, la réponse, c'est oui et non. Le féminisme n'existait pas à cette époque, bien entendu, le mot n'existait pas. Mais il y a un rapport très différent entre Jésus et les femmes par rapport aux autres personnages des textes. Donc, on a peut-être notre doyenne qui a travaillé ces textes-là depuis beaucoup plus longtemps que l'ensemble. Et à l'inverse, j'ai invité quelques-uns de mes étudiants à travailler avec nous sur ce livre. Donc, David Lebel, qui a fait son mémoire de maîtrise sur la question des frères de Jésus. Donc, il y a un chapitre sur ça. François Doyon aussi, qui lui, bon, il y a déjà un doctorat en philosophie, mais qui a commencé un doctorat en théologie récemment, en études bibliques. Donc, ça y amène un regard plus philosophique, aussi historique sur la question. On a Francis Daou qui travaillait plutôt dans l'Ancien Testament, mais qui est maintenant directeur de SOCABI, la Société catholique de la Bible, donc qui a un regard beaucoup, pour Francis Daou et pour SOCABI, l'important, c'est les monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça nous aide à sortir de la tour universitaire dans laquelle on s'enferme des fois comme professeur. Mais ce livre-là n'est pas, c'est vraiment pour sortir de l'université, donc Francis nous aide avec ça. Et on a Anne-Marie Chapelot qui travaille les textes avec un regard plus littéraire peut-être, plus symbolique, très content qu'elle soit dans ce groupe-là, qui travaille à partir de Chicoutimi. Antoine Paris, qui est en France, mais qui vient de temps en temps travailler ici, il a fait un doctorat conjoint à l'Université de Montréal et la Sorbonne, si ma mémoire est bonne. Un personnage incroyable, il travaille les textes grecs, mais lui, Antoine a une vision beaucoup plus large sur l'Antiquité grecque en général et sur le rapport à la littérature. Donc, c'est un génie. donc, c'est un honneur de pouvoir travailler avec lui. Guylain Prince, un prêtre québécois très bien connu. Donc, lui, qui a aussi une volonté pastorale d'aider à mieux comprendre la Bible, à donner le goût de lire. Donc, on a regroupé ces personnes-là qui ont différents angles pour parler de Jésus sur des questions qui intéresse.
Sébastien Daume, tout au long de l'ouvrage, on s'aperçoit qu'on voit des référents culturels qui sont très variés. On passe des Simpsons à Astérix, au MeToo, aux questions environnementales, au cinéma. Il y a une volonté, dans ce sens-là, de rejoindre les gens, j'ai l'impression.
Oui, c'est clair, mais je pense que c'était non pas juste une volonté de rejoindre les gens, mais que les auteurs se sont permis de parler à partir d'une voix personnelle et de dire Jésus à partir des références culturelles qu'ils ont eux-mêmes. Donc, par exemple, que quelqu'un qui comme moi a été nourri aux Simpsons toute son adolescence, ben ne peut pas penser autrement qu'avec le Dieu et Jésus qui sont présentés dans cette série-là et dans d'autres séries télévisuelles du même genre. Ou la même manière qu'à une autre époque, ben on avait les grandes cantates de Bach et autres qui nous disaient Jésus autrement. Mais chaque culture et pas juste la culture occidentale, hein, qu'on pourrait aller voir un peu partout sur le globe, a ses façons de représenter Jésus. Et c'est toujours des interprétations, hein, que ce soit quelqu'un qui est en train de concevoir une crèche en Haïti ou quelqu'un qui est en train de faire un film à Hollywood. Quand on représente le personnage de Jésus, il y a tellement de choses qui nous habitent, il y a eu tellement de façons de le représenter au préalable qu'il faut se poser des questions. De quel Jésus on parle? Quel Jésus qu'on met sur scène, qu'on représente? Donc, c'est une des façons de parler de Jésus, c'est de partir des référents qui sont là et de voir, ben, est-ce qu'il y en a qui font sens avec les textes bibliques? Est-ce qu'il y en a qui non? Au contraire, sont peut-être ludiques, mais ne donnent pas vraiment à penser. Mais donc, oui, c'est un des éléments intéressants de notre livre en général, c'est de partir de notre culture pour dire Jésus.
Oui, il y a une volonté de partir de l'aujourd'hui, d'une certaine façon, de notre culture aujourd'hui, de notre monde d'aujourd'hui. Une des premières questions, puisqu'on parle de questions controversées, chaque chapitre est une question d'une certaine façon. Je dirais que la première, elle va dans le sens, c'est Jésus a-t-il existé? Et là, vous avez une stratégie de montrer des arguments pour et des arguments contre. Et là, c'est là où on a le dialogue, finalement.
Oui, puis on se pose honnêtement la question. Et d'ailleurs, il y a un philosophe français, Michel Onfray, qui vient de sortir un nouveau livre pour dire que Jésus n'a pas existé, que c'est un mythe. Donc, on appelle ça la thèse mythiciste. Et bon, c'est François Doyon qui signe le chapitre à ce sujet. Donc, les arguments contre l'existence de Jésus, c'est dire que Dieu et homme, ça fonctionne pas là, au niveau historique, non. Et de voir le rapport de foi à Jésus est difficile, ou en tout cas, ne se comprend pas en science historique. Et bon, un pas de plus, c'est de dire bon ben si c'est il y a toute une histoire mythique autour du personnage ou qu'on a divinisé, ben est-ce que ce personnage-là serait pas comme un mythe complètement, puis que ça serait quelque chose de complètement fabulé. Et puis on va dire ben les arguments contre, c'est de dire ben contrairement aux empereurs romains, ben il y a pas une pièce avec son marqué avec son visage ou lui-même il y a pas écrit de texte. Mais cela dit, si on va avec ces critères-là pour l'historicité, ben il y a très peu de personnes qui auraient existé dans l'Antiquité, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont écrit, très peu de personnes qui ont eu la possibilité de faire frapper de l'argent comme un roi. Pourtant, beaucoup de personnes ont existé sans laisser de traces. Et Jésus, dans les arguments pour son existence, ben il y en a plein de traces, mais c'est pas lui-même qui a écrit, c'est quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, des disciples qui mettent par écrit des traditions orales qui durent déjà depuis un certain temps. Et ce qui est fascinant, c'est de voir qu'on a des documents papier, là, des papyrus, très, très, très tôt. Alors, le premier, le plus ancien, c'est en 125, on a un petit extrait de la Passion dans l'Évangile de Jean. Ben, l'Évangile de Jean aurait été écrit quelque part entre 90 et 100, et 25 ans plus tard, en Égypte, on retrouve un bout de papyrus de cet Évangile-là. Donc, ça montre à quel point, très rapidement, ça a été recopié, puis on a peut-être 5 000 manuscrits en grec ancien du Nouveau Testament. Donc, ces textes-là sont très attestés. On peut vraiment les comparer et voir comment est-ce qu'il y a des variables et tout ça. Mais tout ça pour dire que, pour moi, la réponse est évidente. Oui, il a existé. Et qu'on a des documents historiques qui en parlent très rapidement, contrairement à beaucoup d'autres personnages de l'Antiquité. Donc, oui, mais on ose poser la question, puis de regarder les deux côtés, puis de voir, ben peut-être, moi, j'espère que dans certains des chapitres, il y a des lecteurs qui sont pas d'accord avec le point de vue, soit le point de vue que l'auteur avance un petit peu plus, ou un point de vue habituel, mais qui puisse le lire quand même, le livre, parce qu'il dit, ah ben mon point de vue est quand même représenté, même si au final, c'est peut-être pas celui-là qui est mis de l'avant, là.
Et je pense que l'auteur, François Doyon, évoque aussi, par exemple, que Paul, on n'a pas tant de traces que ça non plus, il fait un parallèle.
Oui, ben, en fait, c'est que Michel Onfray ne va pas contre l'existence de Paul, alors qu'il va contre l'existence de Jésus, ben, parce que Paul, entre autres, a écrit des lettres, mais les lettres qu'on a de Paul, on n'a pas les lettres qu'il a écrites lui-même. Là, donc, c'est les premières lettres de Paul datent les manuscrits datent du 2e siècle. Puis, il y a un personnage assez important, Marcion, qui a fini par être hérétique et mis de côté de l'Église, mais qui se basait largement sur Paul, puis il avait sa propre collection. Puis, on sait que les textes de Paul, comme les textes les restes du Nouveau Testament, ben, ont été remaniés. Puis, beaucoup de textes de Paul sont des pseudépigraphies aussi. Alors, c'est pas toutes les lettres de Paul qui ont été écrites directement par Paul. Donc, pour François Doyon, il dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas chez Michel Onfray, de dire, ben, Jésus, lui, il a pas existé, Paul a existé, puis on pourrait faire ça avec Socrate, Platon, et on pourrait exister tous les personnages de l'Antiquité, de voir que ça va jamais de soi. Mais c'est, regardons qu'est-ce qu'on a, puis quelle est la valeur, puis c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours plus ou moins probable.
Il y a un autre chapitre sur la question des ancêtres de Jésus. Je pense que tout le monde se rappelle du passage qu'on retrouve dans les Évangiles, mais là, on prend le temps de s'attarder à la signification de cette liste généalogique.
Ah oui, là, j'espère que vous avez au moins 3 heures de temps, parce que c'est ma thèse de doctorat qui portait là-dessus, qui est 500 pages. Mais dans Matthieu, ce qui est fascinant, moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir, quand j'ai lu cette liste-là de la généalogie, quand on entend ça à l'Église, on entend les 2-3 premiers noms, puis après ça, on pense à notre liste d'épicerie, là. Mais quand on prend le temps d'aller voir c'est qui ces personnages-là, on est vraiment surpris. Il y a toutes sortes de il y a des horribles rois qui ont sacrifié leurs propres enfants. T'as des prostituées, t'as des étrangères, il y a toutes sortes de personnes. C'est à peu près l'inverse de ce qu'on écrirait comme une vie de saint dans la tradition catholique là. Et pourtant, Matthieu, ben c'est cette généalogie là qui présente Jésus, un Jésus qui semble être par sa généalogie présenté comme quelqu'un qui est à la fois fils de David, fils d'Abraham, on insiste là-dessus au début, mais aussi qui est fils de femmes qui étaient dans des situations marginales horribles et qui s'en sont sortis comme Rakab, Tamar, Bethsabée. Donc la généalogie en Matthieu met l'accent sur justement comme par exemple Bethsabée. Il aurait pu juste dire qu'il est fils de David, mais au lieu de dire qu'il est fils de David, il dit il est fils de celui qui a eu une relation avec Bethsabée là, tu sais. Donc il met l'accent sur l'adultère et entre guillemets le meurtre commis par David. Donc ça laisse entendre peut-être que Jésus, oui, il est fils de David, mais il est pas tout à fait comme David. David avait ses problèmes. Puis d'ailleurs, la généalogie en Matthieu montre qu'il y a un exil. Donc ultimement la lignée des rois judéens se termine, puis ça marche pas, puis il y a cette recherche de qui va être ce roi des Juifs qu'on a dans le chapitre 2 qui suit. Donc on a cette présentation d'un roi des Juifs, mais autrement que ce qui est ce à quoi on s'attendait.
Sébastien Daune, il y a un autre sujet qui fait aussi l'objet de discussions importantes, c'est le sujet des frères et sœurs de Jésus.
Oui, question controversée, en effet. Moi, je me rappellerai toujours, je venais de commencer mes études en théologie et ma mère arrive de la messe, est allée à la messe sur semaine, puis elle rentre dans la maison, j'avais peut-être 19, 20 ans à l'époque, puis elle me dit, Sébastien, tu fais des études en théologie, là, aujourd'hui, là, il parlait des frères de Jésus dans l'Évangile, là, c'est quoi cette affaire-là, là? Et puis elle était vraiment troublée. Parce que on a, bon, dans l'Église catholique, tout ce qu'on a mis de l'avant sur la virginité de Marie. Et donc, on a dans notre conception, dans notre tête, Jésus comme l'unique enfant de Marie-Joseph, puis un Joseph qui meurt assez rapidement, puis une Marie vierge. À quelque part, on a une image peu familiale de Jésus, où on a une espèce de famille très spirituelle qui a très peu rapport avec ce qu'on sait des familles du premier siècle en Galilée. Les familles avaient plusieurs enfants, puis tout ça pour dire que dans les textes évangéliques ont aucun problème de parler des frères de Jésus. En fait, pratiquement tous les textes du Nouveau Testament en parlent. Les 4 évangiles mentionnent les frères de Jésus, il y en a 2 qui les nomment, donc il y a 4 frères et des sœurs. Donc, au total, ils sont au moins 4 plus 2 sœurs plus Jésus, 7 à la maison. Des lettres de Paul vont parler de Jacques, le frère du Seigneur, qu'on retrouve aussi dans les Actes des Apôtres, qu'on retrouve même chez Flavius Joseph qui va parler de Jacques, le frère du Seigneur. Il y a la lettre de Jacques aussi qui est dans le Nouveau Testament. En tout cas, bref, il y a plein de... C'est pas quelque chose qui est tabou dans les textes bibliques. C'est vraiment quelque chose qui est devenu tabou suite aux dogmes mariaux et qui sont plus tardifs que les textes bibliques eux-mêmes. Donc, dans les textes bibliques, qu'est-ce qu'on a? On a le mot adelphos. C'est le mot pour frère. On peut le comprendre de différentes façons. Et le chapitre montre que, ben oui, alors Saint Jérôme va proposer la solution de voir ça comme des cousins, qu'on va nommer frères, mais que c'est une fraternité éloignée. On va spiritualiser ça, voir que c'est une métaphore, tu sais, comme on est des frères, tu sais, même si généalogiquement, biologiquement, il n'y a pas de lien. Donc, il y a des portes de sortie pour ceux qui veulent en voir. Mais les textes eux-mêmes semblent pas dire que c'est une question métaphorique là. Jésus est avec ses disciples, puis ses frères arrivent avec sa mère. Ben c'est pas des frères métaphoriques là. Ils sont avec sa mère, ils viennent le voir. Tout dans la scène semble dire que c'est ses frères avec qui il vit. Mais bon, on n'a aucune idée. Est-ce que c'est les frères de Joseph et de Marie? Est-ce que c'est d'autres qui viennent des demi-frères? Il y a plein de solutions, puis c'est ça qu'on explore dans ce chapitre-là. Mais bon, il y a rien de scandaleux de se poser la question. Ce qui est scandaleux, ce serait plutôt de ne pas se poser la question, puis de pas lire les textes bibliques parce qu'ils nous dérangent. Si les textes bibliques nous dérangent, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on soit dérangé là. Les sources de notre foi, puis les sources de ce qu'on sait sur Jésus, c'est les textes les plus anciens qu'on a, c'est les évangiles. Donc retournons-y, essayons de mieux les lire, puis de poser les questions.
Puis une fois de plus, au point de vue méthodologique, c'est ça, vous présentez les différentes hypothèses et oui. Vous laissez au lecteur ou à la lectrice, je dirais, le choix de sa réponse.
Exact. Puis on a différentes traditions chrétiennes qui font différents choix. Chez les protestants, orthodoxes, catholiques, on a différents choix pour essayer de voir comment comprendre ces frères-là. Chez les orthodoxes, c'est plutôt la solution des demi-frères. Chez les catholiques, c'est plutôt les cousins. Chez plusieurs des branches protestantes, ça va être de voir que c'est des frères, des plus jeunes de Jésus, tout simplement. Donc, c'est il y a différentes traditions qui existent. Puis c'est de voir à nous aider à voir où on se situe, nous, comme lecteurs des évangiles. Comment est-ce que moi, je comprends ça, ces frères et sœurs de Jésus-là?
Quand j'ai commencé à lire le livre, les premiers chapitres, bon, Jésus a-t-il existé, frères et sœurs, je m'y attendais un peu vu le sujet, etc. L'autre partie qui suit, moi, m'a intéressé beaucoup et j'avais pas nécessairement vu cet angle-là, c'est la question de l'éducation de Jésus.
Oui, alors ça, c'est Guylain Prince qui signe ce chapitre-là, de replacer Jésus, non pas avec notre idéalisation de « Ah oui, il est le Fils de Dieu, donc il a accès à la connaissance, puis il doit être... » Non, d'y aller avec qu'est-ce qu'on sait de la Galilée du 1er siècle. Puis de voir qu'en Galilée au 1er siècle, ben, il y a pratiquement personne qui savait lire et écrire. Mais pourtant, il y avait une certaine forme d'éducation, mais c'est une éducation différente de la nôtre, une sagesse différente de la nôtre qui se transmettait de père en fils, de mère en fille, mais dans des situations très concrètes. Puis, des traditions, les Écritures d'Israël étaient très importantes, mais ils n'étaient pas transmis de la manière qu'on les transmet aujourd'hui. Donc, c'est une erreur de penser, même la scène en Luc où on a Jésus qui va à la synagogue pour lire un texte, ben, on importe dans cette scène-là notre conception de qu'est-ce qui se passe à la messe quand nous, on va lire un texte. Est-ce que ça veut dire la même chose dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y avait même un papier qui était disponible pour lire à la synagogue de Nazareth? Donc, c'est ça. Donc, le chapitre pose des questions, essaie de remettre en place, dire que c'est pas la... Tu sais, aujourd'hui, si on sait pas lire et écrire, ben, on n'a pas d'éducation. Mais au premier siècle, c'était pas ça du tout. Il y avait des empereurs qui étaient super intelligents puis super puissants, mais qui savaient pas lire ou écrire. Parce qu'il y avait des professionnels pour ça, des scribes. Puis si t'avais besoin de lire et écrire, ben, t'allais les voir. Donc, bref, c'est de replacer ça dans le contexte, mais ça change rien au fait que Jésus a été un personnage qui donne encore à penser. Donc, même qu'il sache lire ou pas, à quelque part, et ce qu'il a produit au sens des paraboles, par exemple, et tout ça, est d'un grand apport intellectuel.
Et l'auteur, M. Guylain Prince, rappelle qu'à l'époque, quand on parle de Jésus et de ses premières années, on est en plein milieu rural.
Ah oui, c'est clair. Et il y a une grande différence rurale et ville. Puis c'est une différence politique, hein, parce que les villes sont très contrôlées par Rome. Dans les évangiles, on voit Jésus spécifiquement pas aller aux villes romaines qui sont tout juste à côté. Si on va à Nazareth aujourd'hui, on peut aller visiter les ruines de Séphoris qui sont à quelques minutes de marche là. Je l'ai fait à pied. Et quand tu arrives à Séphoris, ben, y a des mosaïques immenses. Mais Jésus va pas dans ces villes-là. Il reste dans les villages galiléens. Il reste dans un contexte rural, mais un contexte moins marqué par l'Empire, par le côté politique. Et quand il descend à Jérusalem, ben c'est là que oups, la tension embarque, puis il va finir par mourir là. Donc, il y a ces oppositions-là aussi. Et Galilée, Judée. Bref, il y a tout un contexte historique qu'on peut... plus on en connaît sur ce contexte-là, plus on peut comprendre le Jésus des Évangiles.
Et ça s'inscrit dans toute la question aussi du Jésus historique que vous évoquez à différentes reprises.
Petit bémol, c'est que Jésus historique n'est pas exactement le Jésus qui a marché en Galilée il y a 2000 ans. Ce Jésus-là, il est perdu à tout jamais, on le sait pas. Je l'ai jamais rencontré, j'ai aucune idée c'était quoi ses intentions, puis je le saurai jamais. Par contre, avec mes études, avec les lectures que je fais, en discutant, en dialogue avec d'autres spécialistes, ensemble, on peut essayer d'approximer qui serait ce Jésus de l'histoire-là. Donc, ce Jésus historique, c'est une reconstitution. Donc, on le sait, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas accès directement à Jésus. C'est pas le Jésus historique, c'est une reconstitution historique de Jésus. Et cette reconstitution historique-là, ce qu'on voit, c'est ça a commencé... avec la modernité, hein, 17e, 18e, 19e siècle. Puis, quand on relit ces textes-là, même début 20e, on voit que souvent les auteurs se projettent dans leur reconstitution de Jésus. Dis-moi, qui est ton Jésus? Je vais te dire qui tu es. Donc, il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de vraiment mettre l'accent sur que ce soit des reconstitutions. Cela dit, tout savoir part d'un lieu. Donc, on peut pas être complètement objectif. On est situé, on lit et on comprend à partir de là où on est. Mais en dialogue avec d'autres, on peut essayer de voir, à être au clair avec nos biais, puis en savoir le plus possible sur ce Jésus-là. Mais entre autres, au début, la question du Jésus historique, c'était de faire une démarcation avec le Christ de la foi. Donc aussi de parler de Jésus en dehors de la théologie et en dehors du monde de l'Église. Et ça a permis... toutes sortes d'avancées. Et en même temps, là, je pense qu'il y a, c'est plus besoin d'être en opposition. On peut travailler sur les reconstitutions historiques de Jésus sans nécessairement l'opposer au Christ de la foi. D'ailleurs, les textes qu'on a sont écrits par des personnes qui voyaient Jésus comme Christ. Donc, à quelque part, faire une distinction trop franche entre les deux respecterait pas la tradition qui nous a amené à penser à Jésus là. Donc c'est très complexe. Ça, j'invite vraiment les auditeurs à aller lire sur le Jésus historique, tout en sachant que le livre que vous allez prendre, ben il y a un livre qui va dire autre chose aussi, puis c'est tant mieux.
Sébastien Daune, on est déjà à la fin de cette première émission. Je rappelle que vous avez dirigé un ouvrage qui s'appelle « Questions controversées sur Jésus » en 2023 aux éditions Novalis. Vous nous revenez la semaine prochaine pour d'autres questions.
Certainement.
Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Au revoir.
Merci à Yannick Caron pour la mise en onde, à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une seconde émission sur le Jésus historique avec Sébastien Daune, professeur en études bibliques à l'Université Laval.